quand on parle de novos croisades et, comment dirais-je, de l'instauration de la sécurité sociale, on ne parle pas toujours d'un acteur fondamental de l'époque qu'on a parfois tendance un peu, dont on a parfois tendance à oublier un peu le rôle, le poids, c'est celui de la mutualité. Et bon, je ne vais pas évidemment dire que la mutualité est un moment important, ça vous le savez bien. La mutualité, la sécurité sociale, la création de la sécurité sociale est une des quatre grandes réformes de la libération, ça on le sait bien. Mais paradoxalement, ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que cette sécurité sociale a été, l'instauration de cette sécurité sociale a été vécue comme un moment bref de crise dans l'histoire de la mutualité. Ce mouvement important, ce qui n'a pas connu tellement de crises durant sa longue existence, paradoxalement, l'instauration de la sécurité sociale est pour elle un moment très difficile. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Depuis, la sécurité sociale n'est pas, comment dirais-je, n'est pas complètement tombée du ciel. Elle a aussi une longue préhistoire ou histoire, enfin, qui l'explique avant. Et dans lequel la mutualité avait joué un très grand rôle. Et on assiste à ce paradoxe quand on voit l'instauration de la Sécu en 1945, que la mutualité se sent en quelque sorte dépossédée d'une grande partie des fonctions qu'elle opérait jusqu'avant. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer dans les 30 minutes qui me sont imparties. Alors d'abord, un simple rappel du moment, du contexte. Ambroise Croizat est ministre du Travail de 22 novembre 1945 au 4 mai 1947, avec quelques interruptions, je passe, mais enfin elles sont très courtes. La sécurité sociale a été instaurée le 4 octobre 1945 et par l'ordonnance du 4 octobre 1945, qui a été suivie 2 semaines plus tard de l'ordonnance relative à la mutualité. On voit donc que tout ceci coïncide tout à fait, et que Ambroise Croizat est en quelque sorte aux premières lignes. C'est évidemment un dossier fondamental pour lui dès qu'il arrive au ministère du Travail. Alors, pour voir ce qui se passe, là, d'abord, il faut revenir un peu en arrière, et je l'évoquerai ça rapidement, mais je l'évoquerai néanmoins, parce que ce passé compte lourdement dans ce qui va suivre. Bon, j'évoque simplement le fait que depuis le 19e siècle, la mutualité, c'est depuis le milieu du 19e siècle, plus avant, après la Commune, le mouvement mutualiste s'est de plus en plus séparé du mouvement syndical, et que désormais, et cela constitue une exception sociale française extrêmement importante qui contribue à expliquer l'histoire particulière de notre mouvement social, on a eu en France un mouvement syndical qui a cheminé à côté, ou même en opposition au mouvement mutualiste. Et je n'ai pas le temps ici de vous évoquer tous les noms d'oiseaux que se discernent les uns les autres. Je vais très vite, mais il convient quand même de mesurer le poids de ce fossé. Le fait que les choses commencent à changer après la Première Guerre, où l'on voit la CGT confédérée qui commence à se rapprocher, je vais y revenir, de la mutualité dans le dossier des assurances sociales. En revanche, le courant unitaire de la CGT continue à dénoncer la mutualité, comme les assurances sociales d'ailleurs, comme une création bourgeoise. Les assurances sociales sont une loi fasciste, etc., etc. Pour la petite histoire, je signale que là, vous le savez, la CGT a été créée en 1895. La Fédération nationale de la mutualité française, 7 ans plus tard, en 1902, et que les deux organisations ne se sont rencontrées officiellement pour la première fois qu'en 1972. 1972. Donc oui, c'est quelque chose qui quand même mérite de dire pour montrer l'importance, comment dire, l'importance de cette séparation, le fait que ce très long fossé qui existe. Je n'ai pas le temps de vous dire comment, après, dans les années 50-60, ce fossé commencera à se combler, mais ceci est extrêmement long. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la CGT. FO, Force ouvrière, et les FNMF se sont rencontrés la même année. Et la CFDT, je crois que c'était en 71 ou 72. Donc on voit véritablement cette distance entre le mouvement syndical et le mouvement mutualiste. Deuxième constat, C'est quand même étonnant dans la mesure où en termes de poids social, je sais bien qu'il n'y a pas que ce critère, mais c'est quand même un critère qui compte, on voit qu'en 1914, il y a 4,5 millions de mutualistes, donc environ 10 fois plus que la CGT. En 1939, ils seront, je reviendrai, ils sont 9 millions, 15 millions à Libération. Un mouvement social qui pèse 15 millions de personnes, quand même, ça mérite, je veux dire, qu'on s'y attarde un peu. Et bon, on voit donc l'importance et le fait de l'importance de ce mouvement et aussi son divorce. Deuxième constat, pour en revenir à des choses beaucoup plus proches de l'objet qui nous réunit aujourd'hui, c'est le fait que on pourrait se dire qu'à la Libération, les choix politiques qu'ont fait les uns et les autres pèsent fortement. Or, ces choix n'ont pas été les mêmes. Rassurez-vous, je ne vous ferai pas une histoire de la résistance. Enfin, disons qu'en gros, on le sait, évidemment, la CGT était en pointe dans la lutte pour la résistance. Bon, après avoir éliminé un certain nombre de syndicalistes, on ne connaît pas divers. Bon. Eh bien, la Fédération nationale de mutualité française fait un choix exactement opposé, puisque en octobre 1941, elle accueille de façon tout à fait favorable la charte du travail, qu'elle soutiendra assez activement jusqu'en 1943, jusqu'au milieu de l'année 1943, avant de revenir à ce qui est une marque de fabrique de ce mouvement, sa neutralité traditionnelle. J'ajoute que la mutualité, à part peut-être quelques très rares exceptions, n'a pas collaboré avec les Allemands. Cette distinction est importante. Mais enfin, évidemment, les attitudes des uns et des autres pendant la guerre ont été quand même extrêmement différentes. Donc on voit qu'à la Libération, on pourrait dire que alors que la CGT, tout tendance confondue, est en position de force, ben, il n'en est pas tout à fait de même pour la mutualité, dans la mesure où on pourrait se dire que son passé vichiste lui colle à la peau, en quelque sorte, et qu'elle craint, et d'ailleurs elle l'a cru longtemps après, il y croyait encore quelques années, que ce passé vigiste lui serait tenu comme un mariage pour compte, qu'elle aurait des comptes à rendre. Quand on regarde ce qui était l'épuration dans les rangs de la mutualité, elle était faible, elle n'a pas existé, mais un peu, elle était faible, ce sont des proportions encore mal connues. Surtout, à l'époque, on voit que la CGT, encore une fois, tout en se confondu, visiblement, ne lui en tient pas rigueur, et je veux dire, cette question est complètement passée sous silence. Si j'en avais le temps, je pourrais aussi expliquer comment l'attitude prise par la mutualité pendant la guerre l'a longtemps tétanisée. Je dirais, de façon un peu provocatrice, que l'histoire du mouvement syndical pendant la guerre, c'est pas seulement, on l'a cru longtemps, on est plus nuancé maintenant, c'est pas seulement l'histoire de la résistance. Bon, il y a aussi des syndicalistes qui ont fait le mauvais choix, mais pendant longtemps, le mouvement syndical a vécu dans le fait que nous avons tous été résistants. Ben, bon, les choses sont plus compliquées comme d'habitude. On pourrait dire exactement l'inverse pour la mutualité. On a tous été collaborateurs, on a fait une faute épouvantable, etc. Là encore, je veux dire, les choses sont plus anciennes, mais vous savez que le souvenir, l'image qu'on a, la mémoire que l'on a d'une époque peut être parfois trompeuse et ne pas coïncider exactement avec ce qui se dit. Bon, voilà un peu le décor planté. Deuxièmement, quels sont les changements auxquels est confrontée la mutualité ? Ben, les changements induits par la sécurité sociale et, en gros, pour résumer, ces changements sont de trois ordres. Premièrement, la sécurité sociale est, pour la première fois de l'histoire de notre pays, un système qui vise à couvrir toute la population, même s'il n'y arrivera pas, mais il y arrivera progressivement à partir de 48, dans les années 60 et plus tard, alors qu'auparavant, il avait déjà été mis en place des systèmes de protection généralisée à un ensemble de la population de plus en plus grand, en particulier les lois de 1910 sur la retraite ouvrière et paysanne, les lois de 1930 sur les assurances sociales, mais elles ne couvraient qu'une partie de la population. En gros, 2,5 millions pour les retraites ouvrières et paysannes, une dizaine de millions pour les assurances sociales à la veille de la guerre. La sécurité sociale change sur ce point parce qu'elle veut couvrir toute la population et qu'elle le dit, même si elle ne dira pas tout de suite. Ensuite, la sécurité sociale se pose à une autre visée. elle veut couvrir l'ensemble des risques sociaux qui, pour des raisons historiques que je ne peux détailler ici, étaient couverts grosso modo par des acteurs sociaux ou politiques différents. En gros, à la mutualité, la maladie, à l'État, les retraites, aux compagnies d'assurance depuis la loi de 1898 sur les accidents du travail, et enfin, comme vous l'avez rappelé, les allocations familiales instituées en 1932, peu de temps après les assurances sociales, donc, à l'initiative du patronat. Il y a un seul problème qu'on a laissé de côté, parce qu'on pensait que, hélas, qu'il ne se poserait pas, c'est la question du chômage. Il vrai qu'il n'y avait pas de chômage à l'époque, en 1945, et qu'on pensait que le chômage était un mauvais souvenir des années 30 et que dans la France qu'on voulait reconstruire, il n'y aurait plus de chômage. Je n'insiste pas sur, là, donc, on ne s'est pas en occupé, et vous savez que le chômage sera, pris en charge plus tard. Bon. Troisième point qui différencie fondamentalement la sécurité sociale, c'est que, désormais, ce sont les organisations syndicales qui vont gérer le système. Et de ce point de vue, le changement est profond avec les assurances sociales qui précèdent, dans la mesure où les assurances sociales, qui étaient un bâtard, sur lequel d'ailleurs je vais un peu revenir d'initiatives prises par les acteurs sociaux et par l'État, les assurances sociales étaient gérées en gros, je dis bien, par une partie petite de l'État, surtout une soixantaine de pourcents des mutualistes, à travers ou bien les caisses départementales ou bien des caisses d'affinité qu'autorisait le système. La CGT, la CFTC en avait 6 ou 7%. La CGT confédérée, nous sommes en 1930, en avait environ 5%. La CGT unitaire, 0%. Elle a refusé de s'impliquer dans le système. Et le patronat, un peu, 5 à 6%. Le reste, Là-dessus, le changement est considérable avec la création de la sécurité sociale, puisque, vous le savez, lors des premières élections à la sécurité sociale en 1947, le résultat est le suivant. 61% des voix à la CGT, 21% à la CFTC, 9% à la mutualité. On voit que là-dessus, le changement est absolument total. Et donc, quand on parle de cela, il y a évidemment une question que nous aimons bien nous poser, comme nous autres, en tant qu'historiens, mais qui est une question légitime, c'est la question de la rupture ou de la continuité entre les deux systèmes. Moi, et d'autres collègues qui ont travaillé sur la question, nous estimons que les éléments de continuité sont certains, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas la création de la sécurité sociale si on ne va pas voir ce qui se passe avant. Donc, il faut bien avoir en tête l'histoire des assurances sociales. Il me semble quand même, et pour les trois raisons que je viens d'évoquer, que ce sont les éléments de rupture qui l'emportent, et on voit combien donc la situation est complexe. Elle est aussi bien complexe pour les décideurs politiques du moment, à commencer par Ambroise Croizat. Elle est également pour la mutualité confrontée à dans tous ces changements à un moment où, j'ajoute, vous le savez, le mouvement syndical, CGT, CFTC, les partis politiques de gauche sont particulièrement puissants, je ne reviens pas là-dessus, tout cela est connu, et donc la mutualité, elle, est très conservatrice, elle se situe, même si elle ne le dit pas, même si elle se proclame neutre, même si elle ne prétend pas entrer dans le jeu politique, elle se situe indiscutablement du mauvais côté, et il est vrai qu'en 1945, ses relais politiques sont faibles. Alors, quel est le poids de la mutualité à la Libération? Bon, elle a encore augmenté, puisque à la Libération, on estime qu'il y a en France 12 à 15 millions de mutualistes. Alors, entendons bien, je n'ai pas le temps ici de détailler les différences qui peuvent exister entre un mutualiste et un syndicaliste. L'engagement n'est pas le même, les pratiques n'en sont pas les mêmes, l'idéologie n'est pas la même. Il n'empêche, 15 millions, quand même, ça pèse lourd. Deuxième point, La mutualité a, depuis ses origines lointaines, s'est interrogée et mise en pratique sur les questions de protection sociale qu'elle a commencé à mettre en pratique, en particulier dans le domaine de la maladie, et a été confrontée à un débat absolument fondamental qui permet de comprendre sur le long terme l'histoire de la protection sociale. C'est le débat qui existe entre liberté et obligation. En d'autres termes, faut-il faire un appel, un système où les gens acceptent librement et volontairement de participer? Est-ce que c'est ce que c'est que la mutualité a défendu, y compris avant 14 et ensuite? Ou au contraire, faut-il faire appel à un système où l'obligation est fondamentale, c'est-à-dire que l'État dit telle personne doit obligatoirement entrer dans le système? Ceci est un débat absolument fondamental de l'histoire de protection sociale. Il se pose avant 1914. Il oppose d'ailleurs, pour une part, les mutualistes français aux mutualistes européens, à la majorité des acteurs qui se préoccupent de la protection sociale en Europe. On commence déjà, modestement, mais on commence déjà à réfléchir à l'échelle européenne. Et de son point de vue, les mutualistes français disent non, 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 liberté, liberté, liberté. Ce à quoi leur répondent en particulier les Allemands, du haut de la sécurité des assurances sociales allemandes mises en place sous Bismarck dans les 1880. C'est très joli votre système de liberté, mais vous laissez sur les bords de la route, vous laissez sur les bords de la route des tas de gens qui n'ont pas forcément l'envie ou la possibilité d'entrer dans l'océan. Et qu'est-ce que vous faites pour eux? Et ils peuvent se targuer avec justesse de ce constat. Il y a en Allemagne en 1914 15 millions de personnes qui sont couvertes par des assurances sociales. En 1910, les assurances sociales qui couvrent la maladie, l'accident du travail et la retraite. Il y a au même moment en France 2,5 millions tout au plus de personnes qui sont couvertes par les retraites. Et pour ce qui est de la maladie, je veux dire, ça repose entièrement sur le système mutualiste. Et pour les accidents du travail, ça repose exactement sur la compagnie d'assurance. Donc on voit là toutes les différences. On pourrait aussi dire que ces différences ont beaucoup contribué au fait que la CGT, d'une part, et la CGT allemande, si vous me permettez cette expression, ont une histoire et des pratiques complètement différentes, mais je ne peux pas, comment dirais-je, développer ça ici. Quoi qu'il en soit, cette question de la liberté et de l'obligation est fondamentale, et elle rejoint quelque part, évidemment, cet antagonisme entre syndicalistes et mutualistes qui existe longuement, dans la mesure où, même si c'est avec tardivement, je ne peux entrer là encore dans tous les détails, les syndicalistes vont quand même de plus en plus être défenseurs d'un système d'obligation, alors que les mutualistes, y compris du temps des assurances sociales, continuent de dire les libertés, les libertés, les libertés, et se méfient très fortement des empiètements de l'État, et ils ne cessent de le dire, ils ne cessent de le répéter tout au long, comment dirais-je, tout au long de 1930 à 1945, un peu à l'exception de la période de la guerre. On pourrait donc se dire qu'en 1945, la CGT, par exemple, est considérée que, dans le long combat qu'il opposait à la mutualité, le moment était favorable, et qu'en plus, la mutualité s'étant compromise avec, ou en guillemets, sous Vichy, on pourrait penser que la CGT est lourdement reprochée à la mutualité ce passé. Pas du tout, il en est à peine question. On en entend un peu au congrès de la CGT en 1946 le fait que certes les mutualistes ont fait du bon travail même dans certains temps, mais finalement ces déclarations sont assez marginales et ceci on entend peu parler. Je crois qu'il était dit ce matin, il est noté, je pense Michel que tu reviendras, que Ambroise Croizat a peu touché au ministère du Travail, en particulier au personnel, aux dirigeants qui s'intéressent aux assurances sociales. Bon, je crois que tu vas en revenir tout à l'heure, donc je te laisse en parler, mais je tenais quand même à évoquer, je pense que c'est important. Quoi qu'il en soit, là encore, on voit combien les images du passé vont peser lourd, dans la mesure où l'instauration de la sécurité sociale, et en principe, les mutualistes devraient s'en réjouir, enfin en tout cas avec notre, vision actuelle. Or, cette période est vraiment une période de crise profonde pour la mutualité. Crise parce que un certain nombre de locaux sont, mis à disposition des caisses d'assurance sociale. Un dirigeant mutualiste, Paul Arbery, ira jusqu'à dire qu'en 1945-46, les locaux de la mutualité ont été cambriolés. Que la mutualité, on a fait hold-up sur la mutualité. La Fédération nationale mutualiste française a dû licencier 9 dixièmes de son personnel. Elle avait 130 personnes en début 45. Elle n'en a plus qu'une quinzaine à la fin, de l'année. Cette opposition, les mutualistes ont évidemment suivi les libérations de la sécurité sociale avec abattement, de plus en plus d'abattement. Ils ont même, chose unique dans leur histoire, couvert la France d'affiches en disant non à ce système, non à cet étatisme, on veut instituer une forme de bureaucratie froide, etc., qui va, complètement dénaturer la protection sociale. Nous y opposons, ils n'ont pas fait de manifestation, n'allons pas jusqu'à là, mais enfin, ils sont quand même intervenus dans le débat public extrêmement fortement. Et on trouve encore quelque part comme une trace de cette réminiscence dans leur premier congrès national tenu en 1948 à Aix-les-Bains, où ils se posent la question, le congrès est placé au mot d'ordre, la mutualité a-t-elle un avenir ? Évidemment, se poser la question, ça montre quand même l'ampleur de la crise. Rassurez-vous, je vous rassure tout de suite, le pire est passé et effectivement, période de crise il y a, mais période de crise trop courte, et qui reste encore d'ailleurs mal connue, faute de monographie régionale sur les questions. Il faudra aller voir comment les choses se sont un peu passées dans le département, parce que là aussi, je crois qu'il y a pas. Quoi qu'il en soit, il ne faut pas, je dis deux choses. Premièrement, le 19 octobre 1951, une ordonnance complémentaire sur la sécurité sociale relative à la mutualité. Et grosso modo, ce que dit cette ordonnance, c'est que, en quelque sorte, le mouvement doit retrouver l'autonomie qu'il avait avant les assurances sociales, qu'il ne doit pas seulement se confiner, s'enliser, on dénonçait certains mutualistes, dans la gestion du système, mais en aval de ce dernier, il doit jouer un rôle de tête chercheuse, un rôle de pionnier dans tous les domaines où la sécurité sociale ne sera pas jouée, les enjeux, la sécurité sociale auxquels la sécurité sociale ne pourra pas répondre, en particulier l'éducation, la prévention, d'autres choses qui se sont quand même développées depuis. Donc, on voit que de ce point de vue, il y a réorganisation profonde du mouvement qui lui est proposée par le législateur. Deuxième point, et avant d'arriver à ma conclusion, c'est qu'en 1947, donc peu de temps, Laurent-France Croizet est encore ministre, plus pour longtemps, mais il est encore ministre, et signé ce qu'on appelle l'accord Maurice, qui prévoit en quelque sorte la réintroduction de la mutualité dans la gestion de la sécurité sociale sur les bases du compromis suivant. En gros, la mutualité arrête de s'opposer aux assurances sociales, arrête de dénoncer le système, elle admet le système, ce qui est tout à fait important. En contrepartie, un certain nombre de ces mutuelles auront le droit de le gérer. Et particulièrement les mutuelles de fonctionnaires, enseignants, PTD notamment, ce qui est l'AMGEN, la mutuelle générale des PTD. Et donc, on voit que ce moment de crise a été, rapidement surmonté et que, en quelque sorte, chassé par la porte, la mutualité va revenir assez rapidement, dans le système. Mais il est vrai qu'elle a vécu un moment de crise, mais il est vrai qu'elle va devoir changer ses habits, mais il est vrai qu'elle va devoir aussi changer son fonctionnement. Elle change aussi d'homme qui les dirige. Je voudrais ici donner simplement le nom de Jacques Sennett, qui était président de la FNMF de 1950 à 1967, qui lui-même était un postier et qui s'adapte à la sécurité sociale et qui fait beaucoup pour rénover ce mouvement. Et désormais, mais on ne peut en parler ici, désormais, la mutualité va largement s'appuyer sur la mutualité dont fonctionnaires et d'enseignants, tous les présidents de la FMF, jusqu'à ce jour, sont issus de ces milieux professionnels. Donc, en quelque sorte, si j'avais le temps de développer, je ne l'ai pas, je dirais que la suite de l'histoire, c'est la suite de ce rapprochement lent, mais lent, très lent et peu visible avec les organisations syndicales qui aboutira, par exemple, à ces rencontres de 71-72. Je ne peux développer ici. Je voudrais conclure sur 3 ou 4 points. Premièrement, nous sommes évidemment tous d'accord sur le fait que la sécurité sociale a été une grande conquête ouvrière. Je pense qu'il est inutile de développer davantage ce point. En revanche, je voudrais dire qu'il n'est pas vrai, ça c'est un peu du mythe, que cette création a été vécue dans un grand enthousiasme par les organisations syndicales. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, dans une thèse soutenue il y a quelques années, le thésard avait tout simplement été voir les réactions de la CGT, de la TCC, du patronat aussi, lors de la création de la sécurité sociale. Et visiblement, je ne dirais pas qu'il n'y a pas beaucoup, qu'il n'y a pas des intérêts, mais enfin, il n'y a pas un grand intérêt, et en tout cas, il n'y a pas un grand enthousiasme. Bon, c'est une forme de plus, etc. Donc, cette notion est là, et comment dirais-je, cette notion, c'est une notion actuelle, mais qui ne correspond pas quand même complètement à l'histoire. J'ajoute qu'il faut aussi tenir compte des transformations que connaît la CGT, puisque vous le savez, en 1946, lors de son congrès, les tendances unitaires est forte de 80%, et bon, ça explique évidemment la création de forces ouvrières un an et demi plus tard, mais ces unitaires ont finalement peu de pratiques des assurances sociales. Ils n'ont admis les assurances sociales qu'en 1936. Ils n'ont guère pu s'y investir parce que, bon, vous connaissez la suite des événements, ils ont bien d'autres choses à faire. Donc, de ce point de vue, les confédérés sont en meilleure position pour, revendiquer une continuité. Pour les unitaires, c'est plus discutable. Alors, effectivement, ils s'y sont mis. De ce point de vue, 1945 constitue un très grand changement. Et là aussi, je crois qu'il serait intéressant d'en parler pour un moment syndical, parce que les tournants qui étaient esquissés en 1936 sur la gestion des œuvres sociales, la prise en charge des œuvres sociales, n'a pas pu être fait en 1936 parce que c'était trop court, le temps manquait. Par contre, il donne tout son effort en 1945, mais bon, là encore, il faut voir comment dirais-je que ça devient. Et deux autres points vraiment pour finir. Donc, mon intervention voulait montrer que la sécurité sociale, ce moment fondateur de l'histoire de notre protection sociale, est vécu comme une crise sans doute la plus grave que connue l'histoire de la mutualité, ce qui est tout à fait paradoxal, puisque ce mouvement a été un des, acteurs fondamentaux de la protection sociale avant la création de la sécurité sociale. Je voudrais enfin terminer sur le fait que dans cette affaire ô combien complexe, et il est toujours plus facile à l'historien d'analyser, je voudrais saluer ce qui me semble bien être le sens du compromis d'Ambroise Croizat, le sens du compromis d'Ambroise Croizat, de son intelligence politique, parce que la situation était d'une particulière complexité. On voit que je crois qu'il la comprend très bien, et on peut peut-être se demander aussi si, mais c'est encore... c'est une question que je pose, dans quelle mesure Ambroise Croizat n'était-il pas un peu peut-être en avance sur certains, je dis bien sur certains, au sein du Parti communiste. Je pense qu'il y a eu des discussions. Je pense aussi à d'autres militants comme Marcel Paul, créateur de la nationalisation des EF, qui me semble avoir sur la question des nationalisations, je crois me souvenir de ça, des positions un peu différente d'Auguste Lecoeur. Je crois qu'il y aurait là certainement matière à poursuivre l'édition. Quoi qu'il en soit, cette journée sur Ambroise Croizat nous permet de rappeler tout cela, et je crois que cela devrait être dit. Je vous remercie.